Le samedi 12 novembre à l'Office culturel de Gignac dans l'Hérault, Sandra Nkake a rempli la salle avec les titres inédits de son prochain album Nothing for Granted qui sera dans les bacs le 20 mars 2012. Il n'en fallait pas plus pour que le docteur Funkatus en aille récolter les pensées de l'artiste, un entretien enregistré durant le démontage, séquence immersion comme si vous y étiez.
Du coup, le nouvel album, il est prévu pour mars 2012. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour prendre le temps de roder les morceaux sur scène, où il y a eu un petit, enfin, où peut-être les dates étaient prévues et la date de sortie de l'album a été repoussée. Ou...
Non, en fait, c'est que, tu sais, pour le premier album, on a travaillé un petit peu, j'ai envie de dire, à l'instinct.
Ouais.
Et puis, plus ça allait, plus on avait des concerts. On a fait à peu près 250 dates en 2 ans et demi, ouais. On a quand même pas mal tourné. Et puis plus ça allait, plus il y avait des demandes. Mais moi, j'avais besoin de changer de répertoire. J'avais d'autres chansons à essayer. Donc on a fait une pause d'un peu plus d'un an.
Ouais.
Mais il y avait quand même des dates, voilà, dont celle-ci, où les programmateurs m'avaient déjà vu, m'avaient déjà programmé il y a quelques temps, mais dans d'autres salles. Et qui insistaient. Donc on leur a dit, ouais, mais... vous n'aurez pas, entre guillemets, l'appui de la promotion de l'album qui va sortir. Oui. Mais eux, c'est pas ça qui les intéressait. C'était que je vienne et que... Ce qui est quand même assez, assez génial. Donc, non, je vais pas dire rôder. J'ai envie de dire les expérimenter.
D'accord.
Parce qu'on a un petit peu répété quand même.
Ouais.
Mais c'est vrai que tant que t'as pas joué des morceaux devant les gens, tu sais pas vraiment. Enfin, tu sais ce que tu as envie de dire comme message. Tu sais,
ouais.
Voilà, tu sais comment sont tes personnages. Maintenant, tu sais pas vraiment comment ça prend forme. Si la musique va parler aux gens.
D'accord.
Non, mais c'est une bonne expérience en tout cas.
Et alors bon, évidemment, je découvre les morceaux. Hein,
bah oui. Sauf un.
Oui, à la fin. Sauf happy, un. Happy.
Ouais.
Et justement, enfin, c'est quand même assez des thèmes. Je veux dire, pas dans l'air du temps, mais enfin, assez concerné. Enfin, parce que je me disais en écoutant ça que les musiciens ne sont pas forcément des gens qui sont politisés, mais les thèmes que tu évoques sur le fait que rien n'est acquis, où on peut se dire c'est aussi, on peut être dans une situation précaire, où il faut faire des choix, etc., ça va peut-être plus rentrer en écho avec, par exemple, aujourd'hui des mouvements comme celui des indignés, des choses comme ça, sans que ce soit forcément les partis politiques, mais c'est une manière d'exprimer quelque chose. Alors je sais pas comment. On sent qu'il y a eu une énergie comme ça, un truc dans les morceaux.
C'est
pas de la colère, mais enfin.
C'est pas de la colère, c'est juste histoire de faire en sorte que les gens soient ensemble et s'ouvrent à autre chose que leurs problèmes. On a tous des problèmes, mais ouais. Je pense qu'effectivement, le fait d'en parler, le fait de discuter, le fait d'échanger, le fait de voyager, je trouve qu'on a déjà, nous, une chance de pouvoir faire de la musique et de pouvoir apporter, j'ai envie de dire, une fenêtre sur autre chose. Je pense que. Moi, j'ai pas envie de faire de politique, c'est pas mon métier.
Oui, non, mais
par contre,
c'est pour ça que
j'ai toujours eu envie d'avoir un rapport avec les gens.
Ouais.
Moi, l'individu m'intéresse, le collectif m'intéresse, et je me dis que apporter une réponse collective à des questions individuelles, c'est important. Donc, c'est une manière aussi de voilà d'avoir une place dans la société et dans la politique. Forcément, ouais. Les choix qu'on fait, la manière dont j'ai choisi de faire de la musique, de m'entourer de certaines personnes. De travailler sur un mode, on va dire, familial de production. C'est des amis avec qui j'ai produit l'album, avec qui, voilà, avec qui j'ai écrit, avec qui je tourne sur la route. On est dans une philosophie où tout le monde est payé pareil. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est hyper...
T'as pas un cachet de...
Non, c'est hyper important. C'est-à-dire
ah
que
bon,
pour moi,
Parce que c'est quand même sur ton nom que ça sera.
Ouais, mais mon nom, moi, je n'existe pas si j'ai pas. Oui, non, mais c'est vraiment non, mais important. C'est-à-dire que souvent, les gens ont l'impression que c'est un genre de discours un peu, tu sais, hyper travaillé. Mais juste que moi, je me sens aussi dépositaire de l'énergie que les gens et de la confiance qu'ils mettent dans mon projet. Donc ça aussi, ça donne la patate.
Ouais.
Et que voilà, et que je me dis, je suis quelqu'un qui a choisi de faire de la musique plutôt que de faire autre chose. Je suis mère de famille. J'ai aussi, entre guillemets, je me mets une responsabilité de compte à rendre quant à la manière dont je vais gérer ma petite entreprise. Si je dis à mes enfants qu'il faut éteindre la lumière, qu'il faut faire attention à l'eau, qu'il faut faire attention, faut trier ses déchets, qu'on surconsomme, qu'on est des dingos, ce qui ne veut pas dire ne pas prendre du plaisir dans la vie, mais rappeler aussi à nos amis qui ont 17, 19 ans, 20 ans que oui, parfois on est dans une situation précaire, mais si on prend juste un petit pas de recul et qu'on voit la situation mondiale, on se dit qu'en fait on est un peu des enfants gâtés. Donc voilà, et que moi je vis dans un quartier où il y a tout qui se côtoie. Il y a des super riches. Moi je suis dans le nord de Paris. T'as des super riches.
C'est pour ça que je disais à la dame que je suis dans la même clinique.
Non, il y a de tout. Enfin, tu vois, dans le répertoire, c'est ça, c'est à la fois des histoires que j'ai entendues, des choses que j'ai vues, des gens que je croise. Il suffit d'ouvrir un journal pour t'apercevoir que voilà, on est quand même dans un monde de ouf où il y a une espèce de déséquilibre total de répartition des richesses. On le sait, hein.
Ouais. Et je veux dire, en tant qu'artiste, le titre de l'album, c'est Nothing for Granted. C'est une des chansons.
Ouais.
Mais je veux dire, rien n'est acquis. Enfin, tu fais quand même un choix. C'est une prise de risque aussi, parce que même au niveau des chansons, c'est pas, on sent qu'il y a une approche originale, mais qui rentre pas forcément dans un moule. Enfin, je veux dire, c'est évidemment plus tu es peut-être original et plus tu utilises ta propre voix, plus tu t'exposes effectivement à ce que rien ne soit acquis.
Ouais, mais en même temps,
si t'es artiste, peut-être c'est pas quelque chose que tu vas calculer.
Autant John Irving, Frank Capra, le Corto Maltese, enfin tout ça, c'est de la nourriture qui te donne envie de raconter des histoires et te dire qu'effectivement rien n'est acquis, parce que tu sais pas comment tu vas te réveiller demain matin. Et que moi j'estime que j'ai une chance de faire ce métier et de le faire avec mes propres décisions. Non, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde, tu vois.
Oui, non, bien sûr.
Mais d'avoir pris le parti de, en tout cas pour celui-là, pour ce deuxième album, j'avais envie que ce soit des chansons.
D'accord.
Voilà, des chansons dans le sens une petite fenêtre sur une histoire, sur des individus, voilà, qui sont à des moments charnières, qui ont des choix à faire. Et je trouve que c'est important de parler aux gens, même si ça reste parfois de l'ordre, on va dire il y a un côté un peu cinématique comme ça où les gens savent pas trop, ils ont mis un pied. Parfois il y a des morceaux où j'avais envie qu'on ait l'impression qu'on est dans une scène d'ouverture de western. Tu sais pas trop qui va flinguer qui, mais c'est trop la vie de tous les jours, quoi.
Ouais, parce que bon, j'avais vu le concert de Push Up l'année dernière, qui était vraiment super, ça avait duré 3 heures. Là, c'était plus le côté la générosité du funk où on fait durer le truc, et c'était presque plus une histoire existentielle d'un personnage. Quincy Brown, là, c'est plus une variété de personnages, parce que le Quincy Brown, on a l'impression qu'il était dans une crise existentielle.
Tout à fait. Ouais.
Mais bon, après, tu vois le concert, tu oublies tout ça. Parce que heureusement aussi, parce que c'est vrai que les concerts, tu vis les choses.
Mais là, en tout cas, tu vois les personnages, je pense qu'ils peuvent résonner en chacun de nous, c'est-à-dire
qu'il y a
à la fois toutes les strates de la société, puis il y a aussi tous les âges. Et sachant que là, sur une des dernières chansons sur Skeleton, c'est le message, il est simple, quoi. C'est juste on nous met des œillères, on essaie de faire en sorte qu'on soit tous les uns contre les autres, mais pas dans le bon sens du terme. Tu prends le temps de dire bonjour à ton voisin quand tu le croises, juste de discuter avec les gens, de se filer un coup de main. Et c'est pas vrai qu'on est tous des individualistes. Il y a vraiment moyen de se réunir. Et encore une fois, un concert comme ce soir, en tout cas, la diversité, la variété des gens qu'il y avait ce soir, tu te dis, c'est une petite victoire. Franchement, c'est génial.
Oui, en plus, une salle pleine.
Les gens ne me connaissent pas, ils ne savent pas quel morceau je vais jouer. Oui. Ça passe pas à la radio, mais en même temps... voilà, c'est aussi quelque chose qui se crée sur la longueur. Ouais. Les gens qui m'ont programmé, ils m'ont vu plein de fois, dans d'autres contextes. Ils se sont battus pour que je puisse venir avec le conseil régional, avec le conseil général, parce que je passe pas à la télé, parce que je passe pas à la radio, parce que voilà. Mais ils ont fait un pari et je trouve que c'est plutôt un bon pari.
Une petite question comme ça, parce que je sais que tu as chanté la mauvaise réputation, c'est un peu l'année Brassens, il est d'ici,
ouais,
alors bon,
ouais, ouais.
On va passer à Divergence, Radio Montpellier-Rennes. Je sais pas, enfin c'était par rapport à d'autres grandes la chanson, enfin c'était une opportunité comme ça de chanter Brassens ou c'était un auteur, un chanteur,
qui me plaisait
particulièrement.
Je dirais, c'est même pas vraiment qu'il me plaisait, c'est qu'il faisait partie de ce que j'avais dans les oreilles, parce que maman écoutait plein de musiques différentes, mais beaucoup Brassens. Et moi petite, je comprenais pas ce qu'il disait. Mmh. En fait, des fois j'avais du mal à dissocier les phonèmes et à en faire des phrases qui avaient du sens, mais parfois je me mettais à pleurer en écoutant ces chansons sans savoir pourquoi. Et en fait, le moment où j'ai repris ce morceau, c'était au moment du décès de ma mère.
Ah.
Et en fait, j'avais envie de lui dire merci, de lui faire un hommage, et c'est le premier. En fait, j'avais une musique.
Ouais,
j'avais fait un petit truc dans mon RC50, ouais. Et les premières paroles qui sont sorties, c'est ça. Et si tu veux, il y a plein de gens qui me disent ouais, c'est marrant que t'aies fait une reprise de Georges Brassens, ça tombe bien. Non, en fait, c'est sorti comme ça.
C'est pas du tout l'opportuniste de la faire cette année ou là.
Pas du tout, non, j'ai fait il y a 3 ans.
Voilà.
Donc, non.
Oui, non, t'es pas quelqu'un de carriériste.
Mais non. Non, par contre, voilà, j'ai envie de le faire. Tant que mes os tiennent, tant que j'ai des histoires à raconter, tant que je suis entouré de gars qui sont à fond, non, franchement, ça fait plaisir.
Cette année, alors c'était pas un événement drôle, c'est que Gilles Scott Heron nous a quittés, donc j'avais reçu justement un message de ta part et de Jérôme.
Ouais.
Pour faire tourner, alors moi sur mon blog, justement le morceau en hommage que vous aviez enregistré. Mais c'était quelque chose de très spontané, je pense que vous aviez fait la nuit ou le lendemain.
Ah ouais, en fait, quand on a appris son décès, on a fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire on s'est retrouvés comme des cons sur internet à s'envoyer des messages genre waouh, là quand même c'est dur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est parti, qui donnait un message fort. C'est difficile. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait plein de gens qui nous répondaient, dont un gars de chez FIP qui nous a dit bah justement on voudrait en parler, est-ce que vous voulez venir en parler à la radio? On a dit ouais, pas de problème, pourquoi pas. On y est allé, et puis de là on s'est dit plutôt que de faire comme tout le monde et de s'envoyer des vidéos qu'on aura trouvées sur internet, venez, on se met à plusieurs, on fait un hommage. Puis on sait pas vraiment ce que ça va donner. Par contre, on s'est donné une deadline, un temps limite, on s'est dit voilà, il faut qu'on le fasse en quelques jours. Et essayer de réunir tout un pool de gens avec qui on travaille. On s'est aperçu que il y avait c'était de la presse écrite, de la radio, des DJ, des musiciens, même des gens lambda qui avaient envie de participer. Donc on a appelé tous les potes en leur disant voilà, on a cette idée de le faire comme ça, vite, tout de suite. C'est Jérôme Caron qui a mixé, qui a un pote aussi, qui a mixé Blondetto, qui a fait des remixes de mes morceaux. Daniel Ivinec à la basse, avec qui je venais de collaborer avec l'ONG juste avant, qui lui était pas à Paris, il était pas loin de Marseille, donc il est allé voir DJ Oil, il a branché sa basse dans l'ordinateur, il a enregistré sa prise, il nous l'a envoyé. Enfin, tu vois, tout ça s'est fait par internet. Mixé par plein de gens, par Loïc Dury, par Marc de Clivelo, essayer de faire en sorte que ça, en tout cas que son message passe.
D'accord.
Voilà. C'est que ce qu'on fait, on le fait pas. On est content d'en vivre, mais on en vit surtout parce que ça résonne chez les autres. Quoi.
Ouais, et puis il y a des gens peut-être qui sont inspirés pour le faire, comme lui a pu le faire.
Complètement.
Et alors bon, j'avais une question. Un peu...
personnel.
Non, pas personnel, mais un peu pas cool. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui peut-être t'inspireraient de faire un morceau en leur hommage aussi vite après leur mort? Des gens qui t'auraient inspiré autant que lui, peut-être parce que c'est quand même pas courant de faire spontanément un morceau en hommage à quelqu'un qui vient de nous quitter.
Là, c'est dur.
Faut pas souhaiter que ça arrive vite, mais... Non, c'est un peu bizarre comme question, mais j'y ai
pensé.
Ouais,
c'est un peu bizarre comme question.
Est-ce que il y a d'autres gens pour qui tu aurais fait la même chose aussi spontanément avec autant de cœur?
Je pense que si j'avais
été... Je sais pas, des gens comme Sly Stone, j'en sais rien. Ou...
Non, moi ça aurait plutôt été Nina Simone.
Nina Simone.
Ouais. Ou Tom Waits, mais malheureusement...
Enfin, malheureusement pour moi, mais heureusement pour moi, ça va. Hein.
Ouais, ouais, enfin, tu vois, malheureusement, elle est déjà partie. Et du coup, franchement, c'est difficile de penser sous cet angle-là, effectivement.
Non, mais bon,
parce que toi, t'as envie que les
poser la question.
T'as envie que les gens, ils durent longtemps. Ouais, enfin, oui, surtout, tu vois, là, ils viennent de sortir un album, et je me dis, ouais, c'est ça que je veux faire dans la vie, quoi. C'est-à-dire faire ce que tu es. Et il a une multiplicité de facettes aussi, ce mec-là. C'est un truc de dingue. À la fois très doux, très rocailleux. Il fait ce qu'il veut, quoi. Mais il a invité Flea. Enfin, c'est un peu dingue.
Mais sinon, justement, je lisais il y a deux jours, là, il y avait une interview de lui dans Vibration qui était intéressante. Ouais. Justement, il arrivait avec ses carnets, etc. Et en fait, bon, on parle beaucoup de musique brésilienne. Enfin, je parle beaucoup de musique brésilienne. Pour ramener ça au Brésil, j'ai vu qu'une fois, tu donnais des cours avec Marcelo Preto.
Alors, c'est pas que je donnais des cours.
Lui donnait des cours.
En fait,
je
t'explique. Je l'ai rencontré c'était en 2006.
Ouais.
Je faisais avec le groupe de Jérôme qui s'appelle G-Mob. On faisait un tremplin à Longo, pas loin de d'Amiens.
Ouais.
Qu'est-ce que c'était avant le Picardie Move, je crois. Et bref, donc on a joué. Et après nous, on entend un gars qui chante sur scène. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce truc de malade? Et je monte et c'était Marcelo qui était tout seul sur scène. Sa voix, carrément, j'étais par terre, quoi, de vibrations, de... Voilà, c'était un truc assez intense. Et on a échangé nos coordonnées. À l'époque, il commençait à bosser avec Camille. Et bref, on a échangé comme ça. Et puis, un an et demi plus tard, moi, je faisais mon album. Et il y avait un morceau sur lequel j'avais envie qu'il chante. Je lui ai envoyé un message, il m'a dit oui. Il est venu chanter sur le morceau. Et puis, on s'est dit, bon, ça serait bien qu'on réussisse à collaborer, mais pour un peu plus longtemps. Et l'année dernière, il y a un an et demi, Banlieue Bleue m'a demandé une collaboration, de faire une création qui s'appelait Penda. Et donc j'ai appelé Marcelo pour la faire avec moi. Il y avait Mathieu aussi, il y avait Jean-Phi, et il y avait donc Jérôme, qui va devenir un livre-disque d'ailleurs. Voilà, c'est en cours de travail. C'est une histoire assez délirante qui va être racontée par Julie de Barmoustique, avec qui on a fait quelques scènes aussi. Et donc voilà, quand il est venu pour faire la résidence avec nous, on s'est dit c'est quand même débile qu'il soit à Paris pour quelques semaines et qu'on ne puisse pas le faire rencontrer des gens, quoi. Donc lui s'est dit que ce serait pas mal de faire des ateliers. Et donc il a fait des ateliers, il a rencontré des gens. Et moi, quand je suis allé jouer au Brésil,
oui. Ah, t'as joué au Brésil.
J'ai joué au Brésil dans le cadre de l'année de la France au Brésil.
Ah oui, c'est parce qu'on confond.
Je devais faire une rencontre avec Nana Vasconcelos.
D'accord, oui.
Et donc en fait c'est RKK. Tu vois, donc qui m'appelle pour me dire que bon, alors voilà, il y a un artiste qui se désiste et j'ai donné ton nom, je crois que ça pourrait le faire, est-ce que ça t'intéresse? Ouais, grave, ouais, partir au Brésil, ouais. Et donc on a joué au CESC à San Paulo,
ouais.
Avec Nana, juste une rencontre de ouf.
Ouais.
D'un coup, t'es. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le message, il est là, c'est. Fais ce que tu es, vis la musique à l'instant présent, vis les histoires que t'as dans ta tête et n'aie pas peur. Et puis c'est pas grave si c'est pas dans le cadre. Parce qu'en fait, les gens, ils s'en foutent que ce soit dans le cadre. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
On aime le cadre et puis on aime ce qui est aussi à côté du cadre, quoi. Et ce soir-là, il y avait Marcelo.
D'accord.
Aussi dans la salle. Et un des gars des Barbatouques, parce qu'il fait partie des Barbatouques.
Oui, oui, oui.
Et donc il est monté sur scène. Alors, voilà. Donc c'est.
C'est des rencontres.
C'est des rencontres géniales. Enfin, tu vois, tu t'es dit, c'est trop bien de faire ce métier, quoi.
Quand je t'ai vu arriver sur scène avec cette coiffure, tout de suite je me suis dit, tiens, on dirait Janelle Monáe.
Ah oui, j'ai vu qu'il m'a dit ça aussi tout à l'heure. Je dis, bah non, ça fait 3 ans que je me coiffe comme ça. Ouais, bah, tant mieux, cool.
Oui, c'est quelqu'un que t'aimes bien.
Ouais, j'aime bien.
Ouais. Elle aussi, elle essaie de sortir un peu des cadres.
Ouais, je crois. Elle essaie de s'amuser.
Enfin, bon,
ouais,
non, c'est pas non, du mais, tout en référence.
C'est, non, mais en même temps, si tu regardes... Pas du tout. Si tu regardes, il y a aussi la chanteuse des Noisettes qui se coiffe comme ça. j'ai envie de dire toutes les filles noires qui ont des cheveux naturels, à un moment donné, bon, t'as une afro, mais t'aimerais bien que ça tienne toute la soirée, alors que faire? Donc c'est chignon. Non, puis c'est aussi, moi c'était plus un hommage, il n'y a aucun rapport, hein, direct, visible, à Laurent Bacall. À un certain genre de film noir. Moi, c'est plus le rapport chignon-banane.
D'accord.
Alors, le vrai chignon-banane, moi, ça ne me va pas, il faut un petit peu de volume sur la tête. Donc, c'était plutôt ça. D'accord. Et effectivement, oui, c'est assez proche de la coiffure de Janelle par moment.
Le fait de costume aussi, peut-être.
Peut-être.
Bon, c'est pas les couleurs, mais bon.
Non, mais je t'ai dit, on est plein à être costard. Par contre, le costard, c'était. C'était vraiment la volonté de, on va dire, de désexualiser le propos.
D'accord.
Parce que, de toute façon,
bah oui, c'est vrai, de toute
le
façon,
fait que
le
je sois une fille, ça se voit que je suis une fille, mais je me disais que ça permettait aussi de vraiment rentrer dans l'univers, et j'avais besoin d'une tenue qui puisse permettre de chanter des morceaux comme « La kebab follow », où t'es vraiment vénère, où tu sautes. Et des morceaux un peu plus intimistes, dont un qui s'appelle Same Reality, où je parle du quotidien d'une junkie, d'une nana complètement paumée. Et c'est une chanson qui est dure à chanter. Et tu peux pas la chanter si t'es en petite robe. C'est pas possible. Et puis je trouve que c'est un mauvais message. Et je pense que tu peux être élégante, jolie, voire même sexy en costume. Et encore une fois, voilà, dans les références de visuels qu'on avait envoyés à nos amis photographes, parce que pareil, c'est un pôle de gens avec qui on travaille souvent, il y avait pas mal de photos de Tom Waits et de Lauren Bacall, tu vois, et de Nina Simone. Ah. Donc tu t'es dit, ah ouais, quand même.
Ça se retrouve. Et Buffalo, c'est pas le single, enfin, vous l'avez joué deux fois, enfin, un petit peu en rappel.
On sait pas encore, enfin, ouais, ça sera ou Buffalo ou Show Me the Way.
C'est pas un album à single, vraiment, peut-être non plus. C'est pas le...
Je sais pas, on l'a pas pensé comme ça. Oui, après, le label, il dit, c'est quoi un single? Ils vont essayer avec deux morceaux. Ce sera, je pense, Like a Buffalo. En tout cas, Like a Buffalo, on a fait un clip.
D'accord.
Qui sera prêt en janvier.
D'accord.
Et le teaser sera prêt là dans pas très longtemps, genre fin décembre, début décembre. Parce que je trouvais qu'il retranscrivait bien l'énergie que tous les personnages mettent dans ces moments de vie où il faut faire des choix. Voilà, c'est encore une fois ce soir, le gars il a bien insisté sur le fait qu'il avait. Voilà, qu'il avait poussé des coudes, poussé des bras pour que ce concert puisse se faire. Voilà, c'est on a tous des moments où on se dit, bon, est-ce que c'est la bonne décision que j'ai prise? Mais faut la prendre. T'es obligé de prendre ta décision. Moi, j'ai pris la décision de... Et pas que toute seule, mais aussi parce que je sentais qu'il y avait des gens qui croyaient en moi. Que voilà, fais comme toi, tu sens. Parce que je pourrais pas défendre ce que je fais si je le sens pas. Il y a des gens qui arrivent, hein. Moi je peux pas, ça c'est ma limite. Il faut que ça me ressemble, il faut que ça, en tout cas que ça ressemble à la philosophie que j'ai envie de défendre, sans pour autant donner des leçons de morale. Ça m'intéresse pas de donner des leçons de morale. Enfin, tu vois, tu peux pas être juge des gens, il faut déjà s'occuper de soi-même, mais voilà, essayer de donner la patate aux gens, quoi. Et que ouais, franchement, plus fort. Pour être plus fort, il faut être ensemble.
Et alors justement, par rapport à cet esprit, enfin, peut-être juste une dernière question. Bon, ça c'est une coïncidence, au début de l'année sur mon blog, je m'étais dit, bon, j'avais réalisé qu'en 91, il y avait plein d'albums super qui étaient sortis. Et là, je me dis, tiens, ça fait 20 ans. Tu vois, c'est genre le premier Massive Attack, le premier Galliano, NTM, IAM, enfin, tu te dis, c'est même premier Malka, FFF. Bon, toi, t'as fait partie de cette scène aussi, ce petit microcosme du funk. Je crois que t'étais dans Très Énervé. Je t'avais vu sur scène à cette époque-là déjà, mais c'était un esprit justement où on est dans le collectif, la solidarité, enfin, la débrouille, enfin, c'est des souvenirs par rapport à ça. Enfin, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette espèce de petit revival funk, enfin, où peut-être aussi c'était tes débuts ou non?
C'était mes débuts, mais parallèlement à ça, je faisais aussi beaucoup de théâtre.
Ouais.
Et on était toujours en troupe, c'était toujours des grosses troupes.
Ouais.
Et autant tu aidais les uns à s'habiller, à se maquiller, à tirer des guindes, à être assistant, metteur en scène. En fait, pour moi, ce qui compte, c'est le projet, quelle que soit la place que j'ai dans le projet. Donc là, il se trouve que je suis leader, mais dans Push Up, je ne le suis pas forcément, dans Gym Up, pas forcément. Mais ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a à présenter. Et quand tu sens que tu fais partie de, que tu fais partie de la machine, c'est génial, tu te donnes à 300%. En général, c'est ça qui moi, motive mes choix. C'est plus, est-ce que ce qu'il y a à défendre m'intéresse ? Peu importe l'importance qu'on va me donner, moi, je trouve que c'est important parce qu'on m'a fait confiance et parce que moi, ça me plaît. Et effectivement, les groupes comme Très Énervé, dont j'ai fait partie au début, c'était ça. C'était, on avait cette espèce de, c'est même pas d'utopie, mais en tout cas d'idée que voilà, si on se met tous ensemble, il y a moyen de faire des choses qui nous ressemblent, qui soient de qualité, quitte à ce que ce soit un peu foudingue. Après, t'as une certaine forme de réalité, on va dire, qui te rattrape. Comment tu fais pour manger avec ça? Parce que aussi. Faire des concerts, c'est un certain coût de production, mais ça veut dire s'entourer des bons producteurs aussi, parce que c'est pas impossible. Ouais, simplement.
Surtout aujourd'hui, enfin c'est le.
Ouais, on va te dire.
C'est important de faire des concerts si les disques se vendent.
Ouais, et puis on va te dire, ouais, mais t'as vu, c'est compliqué, le couplet à taux, si vous êtes nombreux, nanana, mais tout dépend comment vous fonctionnez. C'est pour ça que nous on est sur une économie où tout est transparent, tout le monde sait comment ça fonctionne, tout le monde sait combien tout le monde est payé. Encore une fois, il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que quelqu'un d'autre. Mais quand tu apprends que il y a une attachée de presse qui voulait venir et que du coup, ça veut dire qu'il n'y aura pas Julien à la lumière, je dis mais t'as craqué ou quoi ? Non, ah non. Moi, ce que je veux proposer comme univers, c'est son et lumière.
D'accord.
Donc, je suis désolé. Tu resteras chez toi et ton interview, tu la feras par mail. Tu vas pas juste venir pour faire « Ouais, t'as vu, salut, c'est super !» Même si ton travail est important, voilà, faut pas oublier que tout le monde est important, et notamment la lumière. Souvent, on oublie ça. C'est-à-dire que ça te met dans une atmosphère qui est particulière. Et ça, c'est hyper important.
Non, tu te dans une belle salle comme ça, c'était bien. Hein.
Carrément. Enfin, tu vois, et puis ce soir, t'hallucines de voir qu'il n'y a que des bénévoles. Sur toute l'équipe que tu vois là, il y a un salarié. Mmh. C'est que des bénévoles. Les mecs, ils sont gentils, ils sont taquets, ils sont hyper pros. Mmh. Waouh, c'est génial quoi. Mmh. Que ce soit possible. Donc c'est pas juste impossible. Mais à côté de ça, tu peux avoir un tourneur qui va te dire non, fais quelques concerts juste en Formule 2. Non. Mmh. Bah, tu vois, quand tu fais un album avec des gars, t'as envie de le défendre aussi bien que possible. Mmh. Voilà.
Bon, bah écoute.
Donc, bien, bien contente.
bonne continuation.
Merci.
Et bon, merde pour l'album. Hein. Hey, brother. Sun is burning hard. Brother, you live on. Hey, brother. Hey, brother. Sun is burning hard, brother, you live on. Hey, brother, sun is burning hard, brother, you live on.
C'était une interview de Sandra Nkake lors de son concert du 12 novembre 2011 à l'Office culturel de Gignac, une interview proposée par le docteur Funkatus. Le prochain album de l'artiste Nothing For Granted sortira le 20 mars 2012. Place for you.